tutti et à tous. Que la grâce, la paix de notre Dieu le Père, Jésus-Christ, soit sur nous. Avant de commencer, j'aimerais vous demander quelque chose. Puis-je enlever ma veste? Merci. C'est vrai que je viens d'un pays chaud, mais je ne supporte pas trop la chaleur. Mais là, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Luc. C'est un message que j'ai prêché à Paris. Le seul, je suppose, qui l'a écouté, c'est ma femme, parce qu'elle était avec moi, et peut-être Christina, je ne sais pas si elle était là. Mais c'est un message que je voulais prêcher ici, mais j'ai eu l'occasion pour la porter à Paris, et j'ai entendu qu'il a fait beaucoup de bien. Alors, pourquoi pas la porter dans mon église? Donc, c'est un passage qui se trouve dans Luc, chapitre 16, versets 23 et 24. Voilà, il parle de Lazare. Il parle de Lazare. Voilà ce qu'il dit, ce verset. Dans le séjour de mort, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi. » Voilà, on va s'arrêter là. Il y a en Amérique, il y a une tradition biblique, le roi George. Elle est très répandue. Et cette traduction, au lieu de me mettre dans le séjour de mort, il a mis en enfer. Voilà le verset qu'il dit. Et en enfer, il leva les yeux, étant dans les tourments, et il vit Abraham au loin et Lazare dans son sein, et il s'écria. Il en parle beaucoup de cette traduction, mais ils sont un peu dans l'ignorance biblique. Ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas que je sois, que je me mets en avant, que je connais, que j'ai la grosse tête. C'est ce que moi j'ai, c'est que j'étudie la parole. C'est tout. Et vous pouvez avoir, entre guillemets, la grosse tête de la parole si vous étudiez la Bible. Pourquoi cette version, elle est dans le faux? Parce qu'il dit « en enfer ». La vraie traduction, ce n'est pas en enfer, mais c'est dans le séjour des morts. Pourquoi ce n'est pas dans l'enfer? Parce que l'enfer, il n'y a personne dans l'enfer. Vous devez vous étonner. Et pourtant, la Bible est claire. Tous, avant la venue de Jésus-Christ, ils allaient dans le séjour des morts. Mais il était divisé en deux endroits, en deux parties. Les séjours des morts où ils y étaient, ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur, qui ne l'ont pas loué l'Éternel à travers les sacrifices, tout ça qui représente les sacrifices à venir de Jésus-Christ. Et il y a ceux qui ont fait confiance au Seigneur, comme Abraham. On appelait ça le paradis, on l'appelait le sein d'Abraham. Et dans le sein d'Abraham, comme je vous ai dit, on parle de Lazare, il y avait Lazare. Et cet homme-là, le riche, hein, il s'est retrouvé là, dans le séjour des morts, parce que c'est l'endroit où tous, ils y allaient. Mais il y a eu un changement. Lorsque Jésus-Christ est mort, hein, car c'est lui qui a ouvert les portes du paradis, donc Jésus-Christ, lorsqu'il est mort, il est descendu aux enfers et il a pris toutes les âmes qui étaient dans le sein d'Abraham, que pour eux c'est le paradis. Et il les a amenées dans la présence de Dieu. Et à partir de ce moment-là, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur cœur, lorsqu'ils meurent, ils vont au paradis. Ceux qui n'ont pas Jésus dans leur cœur, qui n'ont pas fait la volonté de Dieu, qui n'ont pas confiance en Dieu, où est-ce qu'ils vont? Certains vous diront, ils vont à l'enfer. Eh bien, c'est faux. Ils vont dans le séjour des morts. L'enfer, c'est fermé. L'enfer, Dieu, il l'a construit, il l'a créé pour les diables. Vous regardez dans Matthieu 25, 41, Jésus, il nous le dit clair et net que l'enfer a été créé pour les diables, pas pour l'homme. Pas pour l'homme. Car Dieu veut que tous y soient sauvés. Et aujourd'hui, on entend que ça. Si tu ne te comportes bien, tu vas en enfer. Non, tu ne vas pas en enfer, mais tu vas dans le séjour des morts. Car à un certain moment, encore une fois, si vous étudiez la parole de Dieu, toutes ces choses-là, vous allez les connaître. Pendant la grande tribulation, lorsque l'Église va être enlevée, il va y avoir 7 ans. Ici-bas, sur cette terre, on appelle ça la grande tribulation. C'est-à-dire que Satan, il va être ici-bas. Et il va y avoir la colère de Dieu qui va s'abattre ici-bas sur cette terre. Avec les fléaux, les trompettes, toutes ces choses-là. Il y aura des gens qui vont mourir, voilà. C'est le châtiment de Dieu. À la fin de sept ans, il nous est dit que le Seigneur Jésus va instaurer le royaume et ensuite il va y avoir les jugements derniers. Et il nous est dit que le séjour des morts, il va être jeté en enfer. Il va être jeté en enfer. Tous ceux qui sont dans le séjour des morts, ils vont être jetés en enfer. Pour faire quoi? Pour rejoindre les diables, Satan, Lucifer, l'astre brillant, hein, pour ceux qui ne viennent pas le dimanche matin pour faire l'étude biblique, on a vu ce matin justement l'histoire de Satan. Donc voilà, ce n'est pas, on ne va pas en enfer. Dieu, il n'envoie personne en enfer. Si quelqu'un, il ira en enfer, c'est parce qu'il l'a voulu. Parce que Dieu veut que tous les hommes, ils arrivent à la connaissance de Jésus-Christ et qu'ils montent au ciel. Donc, ceux qui refusent, ils iront rejoindre qui? Celui auquel ils ont cru. Ce n'est pas Dieu qui les envoie, mais c'est nous-mêmes. Et dans ce verset-là, une fois que j'ai dit ça, pour que les choses soient bien claires, hein, vous entendez quelqu'un qui vous dira, « Ah, si tu ne fais pas ça, tu iras en enfer. » Non, on ne va pas en enfer, on va au séjour des morts. Et ici, il nous est dit que cet homme-là, il nous est dit, et il cria. Vous savez bien ce que ça signifie, crier, n'est-ce pas, hein? Mais ici, le mot grec, phoneras, ça signifie crier à perdre haleine. Crier à perdre l'haleine, c'est-à-dire que c'est vraiment... C'est morfond de l'intérieur de nous-mêmes pour crier. Lorsque Lazare, il a crié, « Envoie Lazare pour qu'il trempe son doigt dans l'eau et qu'il me donne à boire. » Et Abraham lui a dit, « Entre toi et moi, il y a un grand abîme. » Donc il a crié. Et tous ceux qui sont dans le séjour de mort, actuellement et avant, ils sont là dans les tourments et ils crient. Donc imaginez-vous, et là, je vous invite ce matin à faire un voyage. Pas que vous allez dans les séjours des morts, parce qu'on est vivant, mais un voyage en esprit. Donc, nous allons nous trouver dans cet endroit où les gens, ils crient à perdre la laine. Et on peut se dire que, voilà, c'est, déjà vous êtes trouvés dans un endroit où on ne pouvait même pas s'entendre. Là, imaginez-vous, tous ces gens qui n'ont pas confiance en Dieu, ils sont là. Et nous, nous sommes là, spectateurs. Hein? Vous êtes tous avec moi, j'espère. En esprit, hein? Mais imaginez, nous sommes là et on entend des gens qui crient. Donc, je vais vous... Aujourd'hui, le titre du message, c'est « Les 4 cris » qui sortent du séjour des morts. Nous sommes là et nous attendons ces cris, nous écoutons. Et en certains moments, Voilà qu'est-ce qu'on entend. Ma punition est plus grande que je ne peux pas la porter. Est-ce que vous connaissez celui qui a lancé cela? Il se trouve dans Genèse 4, verset 13. J'aime bien, vous faites oui, mais ne dites rien. Hein? On dit chez nous, qui tâche, consente. Celui qui ne dit rien, il est d'accord avec moi. Hein? Cet homme-là, c'est Caïn. Et Caïn, il crie. Nous sommes là et nous l'entendons crier. Ma punition est plus grande que je ne puis la porter. Vous connaissez tous l'histoire de Caïn. Pourquoi vous connaissez Caïn? Quelqu'un qui a une voix assez forte. Voilà. Alors, on peut se poser la question. Est-ce que Caïn, il est dans le séjour de mort parce qu'il a tué son frère? Ah, et alors, pourquoi tu as dit que c'est parce que pour ça qu'il était là? Voilà. C'est là la question qu'on doit se poser. Il faut toujours réfléchir. Parce, pourquoi je vous dis ça? Parce que Moïse, il a tué. David, il a tué. Paul, il a tué. Est-ce qu'ils sont dans le séjour des morts? Mais non. Alors, pourquoi Caïn, il est dans le séjour des morts? Parce que Caïn, il a voulu faire sa propre volonté. Comme le livre qui nous a présenté les frères. Dieu a préparé un plan et l'homme, Caïn, il a décidé de faire autrement. Dieu, il avait établi que pour le louer, pour le glorifier, pour demander pardon, pour tout ce qu'il faut faire envers Dieu, qu'il fallait sacrifier un agneau. Lui, il était, il travaillait les champs. Abel, il était berger. Ses parents, on leur avait dit, voilà, vous voulez glorifier Dieu, vous voulez faire ça pour Dieu, il faut offrir un sacrifice. Abel, obéissant, il a offert un sacrifice. Caïn, il a offert les plus beaux produits de la terre, de son travail. Mais voilà le problème. Pourquoi est-ce que Dieu ne l'a pas accepté? Parce que Dieu, il avait dit qu'il fallait offrir et pas donner les fruits de son propre travail. Et à cause de ça, il est devenu homicide. Il a tué son frère. Mais son vrai péché, c'est de ne pas avoir mis sa confiance dans le sang. Et nous savons que la Bible nous le dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. L'effusion de sang de Jésus-Christ. Voilà le péché de Caïn. Il n'a pas fait confiance à ce qui a dit Dieu. Si vous voulez, il a voulu suivre la voie de son grand-père ou de sa grand-mère. Vous savez qui c'est le grand-père, grand-mère de Caïn? Adam et Ève. Ils ont fait quoi? Ils ont voulu établir leur propre doctrine. Et c'est pour ça que Dieu, il l'a condamné. C'est pas à ce moment-là qu'il a condamné. Mais parce qu'il lui a dit, si tu veux faire ma volonté, tu es toujours là. Tu dois demander pardon. Et moi, je te pardonne parce que mon cœur est rempli d'amour. Mais Caïn, il n'a pas voulu. Il s'est parti, elle a dit, ah, tous ceux qui vont me rencontrer, ils vont me tuer. Et Dieu, c'est un Dieu plein d'amour. Il lui a mis un signe dans son front. Hein? Et ce signe, c'était une croix. Le mot grec, ça signifie le bois. Le signe, c'est un bois qui représente la croix de Jésus-Christ. C'est-à-dire, il lui a dit, le péché est couché à ta porte. On l'a vu ce matin. Hein? Satan, il rôde tout autour de nous pour nous détruire, pour nous dévorer, pour nous manger. Toi, il lui a dit le Seigneur, tu connais ces choses, alors toi, domine sur le péché. Et il n'a pas fait attention à ce que Dieu lui a dit, il a tué son frère. Et il s'est éloigné de Dieu. Voilà Caïn, pourquoi est-ce qu'il crie? Parce qu'il n'a pas fait confiance au sang. Et là, c'était une préfiguration du sang que Jésus il aurait versé dans le temps pour la rédemption de l'humanité tout entière. Parce que les sacrifices, c'était quelque chose que les gens ils devaient faire en attendant le sacrifice parfait de Jésus-Christ. Et pour ceux qui suivent nos études le mercredi, hein, il n'y en a pas beaucoup, hein, et c'est dommage. Et un jour, j'ai posé la question au frère Jean-Pierre. Il a dit, les sacrifices sont terminés. Hein? C'est ça ce qu'on avait dit. Hein? Eh bien non, les sacrifices, ils sont terminés dans cette dispensation dans laquelle Jésus, il est là. Mais pendant les royaumes, ils vont être rétablis, les sacrifices. Il va y encore avoir des sacrifices d'animaux. Alors, j'ai demandé à Jean-Pierre pourquoi. Bon, les pauvres, ils ne savaient pas. Hein? Mais tout ça encore, parce que c'est quelque chose qu'on demande comme ça, il ne s'était pas jeté dedans dans l'étude. Mais pourquoi il y a ce sacrifice? Pour se souvenir que si on est là, c'est grâce au sacrifice. Avant, on offrait un sacrifice pour être pardonné en attendant les sacrifices parfaits. Là, pendant le royaume, il y aura des sacrifices pour que nous puissions nous souvenir que si je suis là, ce n'est pas parce que j'ai fait quelque chose de grand, mais c'est parce que Jésus-Christ, il a donné son sang pour chacun de nous. Et on voit ici ce Caïn qui crie. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait confiance au sang de Jésus-Christ. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a fait confiance à sa propre valeur au lieu de mettre sa confiance dans le sang de Jésus-Christ? Si il y a quelqu'un comme ça, sachez qu'un jour, vous allez imiter Caïn et vous allez crier dans cet endroit, parce que c'est un endroit de tourment. C'est un endroit où la colère de Dieu, il est là-dessus. Et encore, pourquoi c'est beaucoup plus joyeux le séjour des morts? Pourquoi? Parce que lorsqu'ils seront jetés dans l'enfer, hein, ils seront passés par les jugements derniers et ces gens-là, ils subiront des peines éternelles, des châtiments supérieurs. Voilà pourquoi ils souffrent dans les séjours des morts, mais ils souffriront encore plus dans l'enfer. Donc si vous ne mettez pas votre confiance dans le sang de Jésus-Christ, le sang que Jésus il a versé pour que nos péchés ils soient effacés, parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Si Jésus n'aurait pas donné sa vie sur la croix, nos péchés ils seront toujours avec nous et nous serions condamnés. Donc si vous ne mettez pas votre foi dans le sang de Jésus-Christ, vous allez crier à perdre l'haleine dans ces jours de mort. À vous de choisir. Je ne vais pas vous dire autrement. Deuxième cri, on est toujours là, entendre les gens qui crient. Et voilà, à certains moments, il y a un groupe de personnes, et ces gens-là, qu'est-ce qu'on les entend crier plus fort que les autres? Voilà, laisse-nous entrer, laisse-nous entrer, laisse-nous entrer. Qui c'est qui dit ça?
Les
cinq folles aussi, mais encore dans le temps, hein, parce que les cinq folles, ils ne nous sont pas dit qu'ils sont dans le séjour de mort. Mais ici, laisse-nous entrer. C'est les gens de l'époque de Noé. Ils crient, laisse-nous entrer, laisse-nous entrer. Et non, ils ne pouvaient pas. Pourquoi? Parce qu'il nous a dit que Dieu a fermé la porte. La porte de quoi? De l'arche. C'est moyen que Dieu il avait prévu pour sauver l'humanité. Et alors voilà pourquoi il avait choisi Noé. Et il lui a dit, dans une période où la pluie n'était pas tombée encore, il lui a dit à Noé, « Noé, prépare-toi un bateau. » Si, il a dit, « Qu'est-ce que c'est qu'un bateau, Seigneur ?» Et les gens, en les voyant construire les bateaux, ils se sont demandé, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Mais Noé, il a écouté le Seigneur et il faisait tout ce que le Seigneur lui disait. Et Pierre, il nous dit que Noé, c'est le prédicateur de la justice. Et la construction de cette arche, il a duré 120 ans. Pas un an, deux ans ou trois ans, 120 ans. Là, il nous montre la patience de Dieu. Il prêchait la repentance, il prêchait la soumission à Dieu. Et il prêchait pendant 120 ans. Mais les gens, ils n'ont pas voulu l'écouter. Au contraire, ils se sont moqués de lui. Mais Noé, une fois que la construction, il était là, vous savez qu'il est rentré avec sa famille, une bête, un couple de chaque bête. Et ensuite, c'est Dieu qui l'a fermé la porte. Et on entend ces gens, laissez-nous rentrer, laissez-nous rentrer. Pourquoi? Ces gens, ils avaient trop résisté à l'appel de Dieu. Pendant 120 ans, Noé, il a prêché l'évangile, et ces gens-là, ils ont résisté à l'appel de Dieu. Mais lorsqu'ils ont vu que l'eau, ça montait, sûrement qu'ils ont frappé à la porte. Mais oui, c'était les moyens, les seuls moyens pour être sauvés, pour être à l'abri. Laisse-nous rentrer, laisse-nous rentrer. Mais Dieu avait fermé la porte. Et il y a aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a une deuxième chance pour ceux qui vivent aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, je vais manger, boire, faire ce que je veux. Et ensuite, il va y avoir une autre chance que Dieu va me donner pour que je puisse être sauvé. Non, une fois que la porte est fermée, il n'y a aucune chance. Il faut faire, comme je dis toujours, c'est lorsqu'on est vivant qu'on fait notre choix de faire confiance à Dieu, de se blottir dans les mains puissantes de Dieu, lui faire confiance. C'est seulement alors que nous pouvons être sauvés. Pas une fois mort. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la Bible nous dit qu'après la mort, vient le jugement. Il n'y a pas, il n'est pas dit, après la mort, il y a une autre chance. Non. Toutes ces pensées qu'ils ont sorties, les gens, aujourd'hui, surtout les religieux, hein, qu'il y a l'enfer, les paradis et les purgatoires, c'est des enseignements blasphématoires. Et tout ça s'est sorti pendant qu'il y a eu un grand écrivain italien, je ne dis pas italien parce que je suis chauvin, mais c'est ça. L'écrivain Dante Alighieri, il a écrit la Divina Commedia. Et c'est dans son esprit, avec Virgile, un grand poète romain, ils étaient les deux, et en esprit, ils ont imaginé de faire un voyage dans le paradis, dans l'enfer et dans le purgatoire. Et à partir de là, il est sorti cette croyance des religieux qu'après la mort, il y a une deuxième chance. Mais ces gens-là, comme aujourd'hui, laisse-nous rentrer. Non, lorsque l'Église va être enlevée, tous ceux qui sont ici, ils vont subir la colère de Dieu. Et tous ces gens qui n'écoutent pas le Seigneur Jésus, dans cette colère, ils vont aller au séjour de mort. Et tous ces gens-là, ils vont crier à perdre la laine. Laisse-nous rentrer, laisse-nous, donne-nous une autre chance. Il n'y a pas d'autre chance. La Bible, il ne parle pas de demain, après-demain, ou hier, avant-hier. La Bible dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Pas demain, il dit aujourd'hui. Dans la Bible, il n'y a pas de demain. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe demain. C'est aujourd'hui qu'on est vivant. C'est là qu'on doit prendre cette décision. Et tous ces gens-là, ils croient que les choses, ils peuvent être remises au lendemain. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, qu'on parle avec des jeunes. Viens au Seigneur Jésus, accepte son sacrifice. Et il te dit, mais je suis trop jeune, moi. Je veux vivre ma vie. peut-être une autre fois. Mais qu'est-ce que tu en sais si demain tu vas être encore vivante? Qu'est-ce que tu en sais qu'en sortant d'ici tu ne vas pas mourir? Ou je ne vais pas mourir? Je ne vais pas tout mettre sur vous. Hein? Vous ne le savez pas. Qu'est-ce qui peut nous arriver une fois sorti? Là, maintenant, vous écoutez. Ah, c'est, tu peux toujours parler, j'ai autre chose à faire. Qu'est-ce que tu en sais qu'en sortant de là, ta vie ne s'arrête? Et Amos nous le dit clair et net, hein? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Donc, ça veut dire qu'il y a une préparation à faire. Ces gens-là, ils ont laissé traîner pendant 120 ans. Ils n'ont pas fait confiance à Dieu. Donc, Dieu, lorsqu'il a exercé son jugement, ils se sont trouvés dans cet endroit. Et ils continuent à crier. Laisse-nous entrer. Un peu comme Lazare. Il a dit, Abraham, il a dit, entre toi et nous, il y a un abîme. Il y a un abîme. Envoie quelqu'un pour qu'il puisse. Abraham, il a dit, je ne peux pas. Ils ont la loi et les prophètes. C'est-à-dire, aujourd'hui, ils ont la Bible. Ils ont la parole de Dieu. Qu'ils lisent, qu'ils la mettent en pratique. Beaucoup, ils disent, oui, Seigneur, montre-toi, je vais croire en toi. Mais Dieu, il s'est déjà montré une fois. Lorsque Jésus-Christ, il est venu, c'était la dernière chance. Ou la dernière grâce qui s'était manifestée. Et dans Hébreu, il nous a dit que c'est le dernier temps. À Hébreu 1, il nous a dit, dans le dernier temps, Dieu, il nous a parlé par son Fils. Dans les derniers. Vous savez comment est-ce que ça veut dire les derniers temps, n'est-ce pas? C'est que c'est les derniers temps. Paul il nous a dit, les temps, ils sont mauvais. Rachetez les temps. Et regardez tout autour de nous, dans ce monde. On peut vraiment dire que les temps, ils sont mauvais. Hein? Et ces gens-là, ils ont laissé traîner. Si vous laissez traîner et vous ne faites pas confiance à Dieu, vous allez terminer dans les séjours des morts. Et vous allez crier, crier, crier. Mais Dieu ne désire pas ça. C'est-à-dire qu'il faut faire confiance à ce que Dieu nous dit. Car c'est seulement comme ça que notre vie sera réussie et que notre place au paradis, il va être prête. Nous continuons à être devant ce séjour des morts. Et le troisième cri, on le trouve dans Matthieu 27, verset 4. Voilà, on entend cette voix qui crie à forte haleine, qui nous dit, j'ai trahi les sangs innocents. Qui a dit ça? J'ai trahi les sangs innocents. Et il criait. Jésus-Christ, il a choisi cet homme. Il a vécu 3 ans et demi avec le Seigneur. Il a vu tous les miracles. Il a vu tous les biens que le Seigneur a fait. Toutes les bonnes paroles qu'il a dit. Et même, je suis sûr, il ne nous est pas dit, mais Judas, il a accompli des miracles. Parce qu'à un certain moment, le Seigneur, il les a envoyés 2 par 2 à prêcher la bonne nouvelle, à guérir les malades, à faire des miracles. Donc, Judas aussi, il est parti avec un autre. Il est parti comme tous les autres. Donc, il a vu toutes ces choses. Alors, pourquoi est-ce qu'il a terminé dans le séjour des morts? On peut se poser cette question-là. Mais c'était quelqu'un qui se fiait beaucoup à l'argent. Il aimait bien l'argent. Et vous savez que le Seigneur Jésus, il a dit, on ne peut pas aimer mammon. Et lui, il avait sa pensée, c'était dans l'argent. D'ailleurs, pour trahir le Seigneur, il a trahi pour 33 pièces d'argent. Mais lorsqu'il a vu qu'il désirait les tuer, il a eu un moment de... Il est revenu dans ses propres pensées, il est retourné, et cet argent qu'il aimait tant, il l'a jeté aux pieds du souverain sacrificateur, en croyant que cela aurait suffi. Mais une fois qu'il s'est aperçu de ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a été fait? Il a pris une corde et il s'est tué. Et c'est là le hic. Il se repentit, pas repentit, il a eu mal d'avoir fait ça, mais au lieu de se repentir, de se tourner vers le Seigneur, vers Dieu, pour lui demander pardon, je suis sûr que le Seigneur, il aurait accordé le pardon. Parce que si nous confessons nos péchés, Dieu, il pardonne. Au lieu de cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est pendu. Voilà pourquoi il crie là. Il crie. Parce qu'il se trouve dans ces flammes que normalement il aurait dû éviter. Si seulement il aurait mis son cœur auprès du Seigneur. Il se trouve là et il crie. Où est-ce qu'il est notre première priorité? Est-ce que c'est dans l'argent, dans notre travail, dans mes vues pour l'avenir? Où est-ce que nous pensons à l'avenir? Et c'est là que le Seigneur il intervient. Car si nous avons nos pensées sur les choses qui concernent la terre, nous allons vivre les choses de la terre, mais ces choses-là, elles vont passer. C'est ce qui reste, c'est ce que nous avons donné au Seigneur. C'est la confiance que nous avons mise dans le Seigneur. Mais Judas, il a préféré faire ses affaires. Il n'a pas cru, il n'a pas mis sa confiance entière dans le Seigneur. Lorsqu'il a été dans le Gethsémané avec les gardes, il s'est approché, il a dit, Jésus, il a dit, mon ami, qu'est-ce que tu es venu faire? Il l'a appelé mon ami, parce que là, il aurait suffi qu'il aurait eu cette reconversion dans son cœur. Et les choses, ils seraient changées. Et non, il s'est tué. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens. Il y a les suicides aujourd'hui. C'est surtout parmi la jeunesse. Parce que les choses ne vont pas comme ils le souhaitent. Ils se suicident. Ah, j'ai plus envie de souffrir. Je n'ai pas envie de vivre ces choses-là que je vis ici. Et ils se suicident en espérant que tout s'arrête. Non. Dans les séjours de mort, sinon pas Jésus-Christ, ces jeunes, hein, ils vont encore plus souffrir de combien ils souffraient ici-bas. Vous avez vu ici ce qu'ils font? Ils criaient à perdre la laine. Et ça, c'est un jugement. Encore aujourd'hui, vous savez, on appelle les séjours de mort ou l'enfer. Mais qu'est-ce que c'est que les séjours de mort ou l'enfer? C'est une vie sans Dieu. Sans Dieu. Moi, je me souviens lorsque j'étais sans Dieu. J'avais aucun avenir. Aucun avenir. J'ai commencé à avoir un peu d'espoir lorsque j'ai connu le Seigneur. Et c'est vrai, parce que c'est le Seigneur qui nous donne des promesses, qui nous donne une espérance. Comme l'a dit le frère tout à l'heure, hein, il y a la foi, l'espérance et l'amour. Qu'est-ce que c'est qui reste? L'amour. Pourquoi la foi, il ne reste pas? Parce qu'on est au paradis. Donc, si on est au paradis, c'est qu'on a eu la foi. Et l'espérance, pourquoi elle n'est pas là, l'espérance? Parce que nous la vivons. Mais qu'est-ce que c'est qui doit rester? C'est l'amour. Voilà pourquoi il n'y a que l'amour dans la maison de Dieu. Pas de foi, pas d'espérance, on y est, on la vit. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes sauvés, parce que nous avons mis notre foi en Jésus-Christ. Mais nous ne vivons pas le vrai salut. Parce que le vrai salut, c'est lorsque nous serons avec le Seigneur. Pas de souffrance, pas de mort, pas de peine, rien. Nous sommes devant le Seigneur. Et c'est ça la meilleure chose. Hein? Et c'est pareil, vous savez, aujourd'hui. Hein? On prêche. On témoigne de l'amour de Dieu. On témoigne du sang précieux que Jésus-Christ il a versé. Mais les gens, ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Et donc, les résultats ne laissent pas entrer le Seigneur Jésus dans leur cœur. Le résultat, ils vont descendre dans le séjour des morts et crier comme tous les autres. Pitié, pitié. on a eu notre chance. C'est à nous de la prendre, de nous en saisir. C'est cela qui va nous permettre de rentrer dans le paradis de Dieu. Nous, voilà, ça c'est le quatrième et dernier. Le quatrième et dernier cri qu'on entend. On le trouve dans Actes 26 et 28. C'est lorsque Paul, il est devant ce roi. Il lui a prêché la bonne nouvelle. Et ce roi, qu'est-ce que c'est qu'il répond ? Tu me persuades presque d'être un chrétien. Et cet homme-là, dans l'enfer, il crie presque, 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 constamment. Vous savez ce que ça veut dire, presque ? C'est qu'on n'est pas chrétien. Je suis presque. Tu m'as presque convaincu de devenir chrétien. Celui-là qui était un roi, il ne se serait jamais imaginé de se trouver là. Moi, roi, je dois me trouver dans cet endroit-là. Pourquoi est-ce qu'il s'est trouvé? Parce que ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas suffisant d'entendre l'Évangile. Lui, il avait entendu l'Évangile à travers Paul. Il avait entendu et il était presque convaincu. Peut-être vous êtes ici, vous avez écouté cette parole, ce message, et vous dites, ah, c'est bien, c'est vrai, il a raison. Mais vous ne faites rien. Alors vous êtes comme Agrippa. Et c'est là que vous criez, presque. Oh, j'étais à l'église, j'ai entendu le message. Ah, j'étais presque, presque là. Mais être presque, ce n'est pas être chrétien. Il faut aller plus loin. Pas seulement accepter l'Évangile par votre propre intellect, mais il faut le faire descendre dans le cœur. Paul nous le dit, si tu confesses de ta bouche, et si tu confesses Jésus-Christ, il faut le dire, il faut l'exposer, il faut le manifester. Et comment on manifeste cela? Par la nouvelle naissance. Être né de nouveau, ce n'est pas améliorer notre vie passée. Parce que c'est une œuvre de Dieu. Si on fait une vraie conversion, le Seigneur, il est dans notre cœur. Et c'est lui qui agit. Le Seigneur, il a dit dans Jean, « Je suis le vrai cep. » Si quelqu'un, il est attaché à moi, alors la sève, il va couler. Dans les œuvres de Jésus qui a préparé d'avance, nous pouvons les accomplir par et grâce au sacrifice que Jésus-Christ, il a préparé. Mais si nous ne sommes pas attachés à Jésus-Christ, c'est que nous ne sommes pas passés par la nouvelle naissance. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Le vigneron, Jésus, il a dit, qui est mon père. Il va prendre les sarments et il va les jeter au feu. Voilà pourquoi c'est très important de naître de nouveau. Nicodème, vous vous souvenez, Nicodème, un grand religieux. Hein? Jésus, il a dit, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne rentreras pas dans le royaume de Dieu. Mais comment naître de nouveau? Est-ce qu'il faut que je rentre dans le sein de ma mère? Voilà. Et c'est là que Jésus dit, non, ce n'est pas la chair et le sang, mais c'est un esprit. Naître de nouveau, comme je vous l'ai dit, on est une fois pour mourir deux fois. Hein? On est de nouveau, on meurt deux fois. Hein? Voilà, c'est Jésus qui accomplit toutes ces choses-là. Et c'est Dieu. Et cet homme-là, il croyait être presque sauvé. Mais il ne l'était pas. Donc, faisons attention au temps que Dieu nous donne. Vous m'entendez souvent répéter ça. Il y a deux façons de voir le temps. Il y a le chronos. Et c'est de là qu'il est sorti le chronomètre. Vous savez ce que c'est le chronomètre, n'est-ce pas? Voilà, les jours, les heures, les minutes, ils passent. Et il y a aussi les kairos. Les kairos, c'est le temps de Dieu. C'est-à-dire qu'en certains moments, Dieu, il intervient dans votre vie. Et il y aura quelqu'un qui va vous prêcher la bonne nouvelle. Et c'est dans ce temps de Dieu que vous devez donner la réponse. Dieu, il a dit à Capernaum, hein, si seulement tu avais pris à cœur les jours de la visitation, si seulement tu avais pris à cœur les jours où je suis venu parmi vous, je vous ai prêché l'évangile. Alors, parce qu'il a dit, Capernaum, tu seras jugé plus sévèrement que Sodome et Gomorre. Pourquoi? Parce que Sodome et Gomorre, ils n'ont pas entendu l'évangile. Mais Capernaum, ils ont entendu l'évangile. Voilà pourquoi vous serez jugé plus sévèrement. Voilà pourquoi je vous ai dit que dans le jugement dernier, il va y avoir les peines éternelles. Celui qui n'a pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, il va aller en enfer. Et ça, c'est la justice. Parce qu'ils ont péché. Le salaire du péché, c'est la mort physique et spirituelle. Mais le reste, voilà, c'est pour l'enfer. Il va y avoir des peines éternelles. Si tu as fait beaucoup de mal, tu auras les peines beaucoup plus dures. Hein, dans l'ancien monde grec, je ne m'en souviens plus comment il appelle, mais il y avait quelqu'un qui il était condamné à monter sur une montagne, un grand rocher. Là. Il faisait tout, il montait, et une fois qu'il était presque au bout là, ce rocher-là, il retombait. Et alors, il recommençait. Voilà, c'est une peine. C'est une peine éternelle que le Seigneur, il donne à tous ceux qui ont fait vraiment beaucoup de mal. Bien sûr que faire le mal, ce n'est pas avoir Jésus-Christ dans notre cœur. Mais ceux qui ont fait beaucoup de mal, pas seulement qu'ils n'ont pas Jésus dans leur cœur, mais ils ont fait beaucoup, beaucoup de mal, ceux-là, ils subiront l'enfer avec des peines éternelles, beaucoup plus dures. Voilà pourquoi tous ces gens-là, ils crient. Parce qu'ils n'ont pas la vie de Dieu en eux. Et ils se trouvent dans un endroit des souffrances, des peines. Vous savez, comme je dis toujours, j'ai prié que personne ici puisse aller dans cet endroit-là. Je ne le connais pas, mais par la description que la Bible nous donne, c'est un endroit de peine, de souffrance, de malheur. Et en plus, Dieu, il n'y est pas. Et lorsqu'on va là, c'est pour toujours. C'est pour toujours. Donc, que faut-il faire pour éviter cet endroit? Avoir une foi ferme en Jésus-Christ. C'est Dieu qui l'a établi le salut. C'est ça, il a déterminé que pour être sauvé, il faut se tourner vers Jésus-Christ. C'est comme dire que Dieu, il s'est lavé les mains. Vous êtes des pécheurs. Jésus-Christ, il est mort pour vous. Voulez-vous être sauvé? Allez vers Jésus-Christ. C'est lui qui ouvre la porte. C'est lui qui nous fait éviter cet endroit maudit qui est le séjour des morts et par la suite l'enfer, dans lequel il y a aussi Satan et ses démons. Pendant la période de Dante Alighieri, qu'il a décrit l'enfer, hein, Satan, il était là, avec ses démons. Tous, ils avaient une fourche. Et avec cette fourche, il enfonçait les êtres humains, et il les jetait dans la fosse, il les retournait. C'est là que toute cette histoire, qu'il a été sortie par des religieux, les diables, avec une queue, avec une tête à qu'on n'arrive même pas à le regarder. Et pourtant, on l'a vu ce matin, hein, que Satan, c'était un chérubin d'une extrême beauté. C'est toute une description fausse. L'enfer, encore une fois, il a été créé pour les diables. Mais si vous ne vous tournez pas vers Jésus-Christ, vous allez terminer là avec les diables, avec qui vous avez choisi d'obéir. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Et vous exhorter à prendre la bonne décision. Car le Seigneur Jésus, il a dit, je viens bientôt. Et on voit tout autour de nous des signes qui annoncent cette venue. surtout et d'abord, c'est la résurrection de la nation d'Israël. Ouvrons bien les yeux à ces choses-là. Le Seigneur, il nous l'a dit, lorsque vous verrez les figuiers donner des fleurs, levez les yeux vers le ciel, car la fin est proche. Donc à nous de mettre toutes ces choses dans notre propre cœur et à prendre la bonne décision. Nous allons terminer par un cantique. Le 229, c'est un cantique qu'on connaît. Entends-tu, Jésus t'appelle.